Bonjour, nous c'est Émilie, Pauline et Léa. Vous écoutez L'écho des mères, le podcast qui parle de la maternité, mais pas que. Tous les mois, on discutera d'un sujet qui nous tient à cœur, car on a beaucoup à dire et souvent pas trop la place. Alors, on se la crée et on vous embarque avec nous. Bienvenue à bord! Aujourd'hui, moi, Émilie, j'ai décidé d'aborder une question brûlante. Une question parfois difficile, parfois frustrante, ou bien qui coule de source pour certaines personnes. J'ai décidé d'aborder la question du deuxième enfant, en passant par des questionnements sur pourquoi devenir mère une fois, puis une deuxième fois, ou pas. À travers nos expériences et nos questionnements, j'espère que cet épisode pourra faire écho en vous. Bonjour Léa!
Bonjour!
Bonjour Pauline!
Bonjour Émilie!
Léa, j'aimerais te poser la première question. Déjà, j'aimerais savoir si tu as toujours voulu devenir mère.
Je pense que oui, en tout cas, je ne me rappelle pas avoir eu une réflexion particulière sur le fait de ne pas l'être. Comme si ça n'était pas une option. C'est vrai que, a posteriori, je me dis que c'est peut-être problématique. Parce que, du coup, on peut se demander si mon enfant est réellement un choix conscient ou pas. Mais en tout cas, je pense que je me suis jamais posé en tout cas la question de ne pas devenir mère.
Quelle vision de la maternité tu avais ? Elle était plutôt positive, négative ?
Ma vision de la maternité était plutôt positive parce qu'elle a été façonnée par l'engagement que ma mère a eu envers moi et mon frère et ma sœur. Puisque par rapport au fait que mon père avait trouvé du travail à l'autre bout de la France par rapport à elle, elle s'est arrêtée pendant 5 ans en enchaînant un congé parental sur congé maternité pour être avec nous au quotidien. Donc de mes 1 an, je pense, jusqu'à mes 7 ans. Elle était à la maison en 100%. Puis ensuite, elle a repris le travail puisqu'on a déménagé. Mon père a trouvé du travail à côté de là où elle en avait. Et elle a réduit son temps de travail, donc de 100% comme elle était avant moi. Elle est passée à 80% et donc elle avait les mercredis pour pouvoir nous emmener aux activités. Et c'est vrai que je ne me voyais pas forcément accompagner mon enfant autrement que par rapport à comment ma mère l'avait fait.
Toi, Pauline, tu as toujours voulu devenir mère ?
Alors, moi, ça n'a pas été du tout linéaire dans ma vie, l'envie d'être mère ou l'envie de ne pas avoir d'enfant. Disons que quand j'étais petite, évidemment, je voulais des enfants, je crois, comme presque toutes les petites filles. Après, j'ai grandi, je voulais une carrière, donc je voulais pas d'enfants, en tout cas pas tout de suite. Et finalement, c'est vers 30 ans que ça s'est imposé à moi. En fait, c'était le moment, c'était maintenant, et il fallait que j'aie un enfant.
Et quelle est la vision, toi, de la maternité que tu avais ?
Alors moi, j'avais deux parents qui travaillaient beaucoup. Mon père était cadre, ma mère, elle était infirmière, donc c'était des horaires assez conséquents. Ils étaient malgré tout présents, même si pas autant que j'aurais aimé. Donc moi, j'avais une vision un peu un sacerdoce, quoi. De jongler entre des horaires de travail compliqués, gérer les enfants, la maison, ce genre de choses. Donc pour moi, c'était quand même quelque chose qui m'a toujours paru compliqué, qui m'a toujours paru difficile et prenant.
Et est-ce que ça s'est confirmé par rapport à ce que tu as vécu au niveau de la maternité, ou ce que tu vis plutôt ?
Alors, c'est prenant, c'est compliqué, mais c'est pas dans le sens où je me l'imaginais. C'est plus émotionnellement que c'est compliqué pour moi qu'au niveau logistique.
D'accord. Bah écoutez, moi, je me retrouve un petit peu dans vos deux discours, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'impression d'avoir toujours voulu avoir des enfants, et d'un autre côté, non. C'est-à-dire, Pauline, je me reconnais un petit peu dans ce que tu dis. C'est-à-dire que je pense que quand j'étais petite, je me disais un jour j'aurai une famille parce que c'est comme ça en fait. Hein. C'est toujours le modèle que j'ai vu. J'ai pas vraiment connu des gens sans enfants, mais je suis devenue vraiment très carriériste. Et c'est vrai que la question de l'enfant ne s'est plus du tout posée à partir du moment où j'ai commencé à avoir une carrière, à beaucoup travailler. J'estimais de toute façon ne pas vraiment avoir la place pour un enfant, et j'estimais aussi ne pas avoir trouvé la personne pour avoir en fait un enfant, donc qui me donne en fait envie d'avoir un enfant. Et c'est ça qui a un petit peu changé au cours de ma vie. C'est que je me disais que si j'ai un enfant, c'est parce que je voudrais faire un enfant avec cette personne-là. Pas du tout parce qu'il faut que j'ai un enfant, pas du tout parce que je veux absolument devenir mère, mais vraiment la question de trouver le partenaire qui pour moi pourrait être un bon père. Non pas que j'ai eu un modèle de père absent ou quoi que ce soit, mais bon, j'ai eu un modèle de père traditionnel, on va dire, hein, qui travaillait beaucoup et que je voyais surtout le week-end. Mais donc du coup, c'était vraiment quelque chose qui pour moi n'était plus du tout dans mes plans de vie comme étant quelque chose qui était absolument nécessaire pour mon évolution, pour mon bien-être. J'étais bien avec moi-même, en fait. J'étais bien avec moi-même, j'étais mieux avec moi-même, d'ailleurs, qu'avec d'autres personnes, avec mes partenaires à la base. Ça s'est pas toujours très bien passé. Et en fait, ce désir d'être mère est venu, donc, avec mon partenaire actuel, où je me suis dit, là, oui, c'est cette personne-là, j'ai envie de faire un enfant avec, avec lui. Pas dans l'absolu, vraiment avec lui. L'image de la maternité que j'avais, par contre, c'était un petit peu l'image que toi, tu avais, Léa. C'est-à-dire de la mère qui est vraiment présente, qui est... qui n'a pas travaillé. Ma mère nous a gardés à la maison. On n'a pas eu de mode de garde jusqu'à l'école. Et c'était, à l'époque, oui, une vision positive que j'avais. C'était une vision un petit peu idéalisée de la mère au foyer qui s'occupe de ses enfants, qui est toujours là, qui est vraiment le pilier de la famille. Et en fait, en grandissant, et aussi avec les relations, on va dire, que j'ai eues avec ma mère, je me suis aperçue que c'était un modèle que moi, je voulais pas reproduire au final. Que finalement, ce n'était pas un modèle si positif que ça, en tout cas pour ma mère, et donc du coup, en réfléchissant à qui je suis pour moi. Et tout ça, ça mène à cette question que j'aimerais te poser, Pauline. Qu'est-ce qui t'a poussée, en fait, à faire un enfant à ce moment-là de ta vie, et avec cette personne en particulier ?
Alors moi, c'est une drôle d'histoire, finalement. Alors, cette personne en particulier, c'était mon mari déjà depuis 3 ans. Forcément, c'était avec mon mari que j'envisageais de faire des enfants. D'ailleurs, je l'ai en partie choisi parce que j'observais ses interactions avec les enfants et qu'il me paraissait être ce que je définissais comme un bon père. Donc forcément, ça a beaucoup joué dans ma décision de l'épouser ou non. On était plutôt d'accord à la base sur comment ça allait se passer une fois qu'on aurait des enfants et ce genre de choses, même si une fois qu'on a eu des enfants, notre vision a changé. Mais bon, on a réussi à s'accorder. Et pourquoi à ce moment-là ? En fait, j'ai un copain qui a eu un enfant, qui m'a annoncé voilà, que son fils était né. Et il m'a dit, et toi, c'est pour quand ? Et je lui dis, bah oui, mais non, moi, j'ai pas de travail fixe, mon mari, il a pas un bon job, c'est pas le moment, ça serait complètement irresponsable. Que pour moi, il fallait une situation stable, de fou, de CDI, avec des bonnes payes. Et puis, il m'a dit, mais Pauline, mais prends la responsabilité d'être irresponsable au moins une fois dans ta vie. Et
d'accord.
Ça m'a fait trop réfléchir. Et je me suis dit, mais en fait, en vérité, il a raison. Il n'y aura jamais de bon moment, finalement. Il n'y aura jamais de bon moment. Et autour de moi, j'ai vu trop de gens qui attendaient indéfiniment le bon moment et qui se sont retrouvés à 45 ans et qui n'avaient pas eu d'enfant et qui le regrettent encore aujourd'hui. Donc je me suis dit, allez, il a raison, on va le faire. Donc on l'a fait. Voilà, tout simplement.
J'aime beaucoup cette notion de « il n'y a pas de bon moment », ça fait beaucoup écho en ce que j'ai vécu aussi. Et toi, Léa ?
Alors, avant de parler de bon moment ou pas bon moment, parce que ça me fait pareil pas mal écho, je voulais rebondir sur l'histoire de la définition de la maternité, parce que c'est vrai qu'en t'entendant parler, il y a des choses que j'avais envie de rajouter. Parce qu'en effet, ma vision de la maternité a été définie par rapport à comment ma mère était avec nous. Mais en fait, c'est vrai que cette vision-là, c'était plus une vision de parentalité et non de maternité, dans le sens où pour moi, c'était pas mon devoir personnel. C'était une tâche, justement, par rapport à ce que tu dis, du fait que ça amenait des problématiques pour ta mère, et donc du coup, j'imagine, dans votre relation mère-enfant, d'être presque la seule responsable de l'éducation générale des enfants. Donc du coup, c'est vrai que moi, j'avais cette définition, du coup, de la parentalité qui était donnée par ma mère, mais qui devait être partagée, que c'était pas mon unique job d'être 100% présente pour mes enfants, mais qu'on devait, avec mon partenaire, avoir cette présence-là avec nos enfants, mais en alternant, en fait, avec nous deux. Donc après, je suis pas sûre que c'est quelque chose qui a pesé dans pourquoi est-ce que j'ai fait un enfant avec l'homme avec qui j'étais, mais en même temps, en fait, Alexis, c'est le seul homme avec qui j'ai jamais été, parce qu'on s'est mis ensemble le jour même de mes 18 ans. Donc voilà, je n'ai pas passé un jour de ma vie adulte sans mon mari. Donc du coup, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, est-ce que je veux avoir un enfant avec cet homme-là ou avec un autre, parce que j'étais construite comme ça, en fait. Je me suis construite comme ça. Voilà, c'est venu petit à petit avec le temps. Et pour arriver à cette histoire de moment, c'est vrai que mon mari, lui, il était... en fait, il a fait des études beaucoup plus courtes que moi. Donc, il est rentré dans la vie active beaucoup plus tôt que moi, logiquement. Et ça faisait déjà un moment qu'il était dans son travail, que nous étions... posée géographiquement, etc. Et donc, lui, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'il me parlait d'avoir un enfant. Moi, j'étais encore en études. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de finir et de commencer à lancer ma carrière. Et puis, finalement, après mon diplôme obtenu, il y a eu deux choses en parallèle. C'est que je me suis retrouvée au chômage. Je ne sais pas si on peut dire au chômage, mais en recherche du premier emploi. Je voyais des gens autour de moi qui mettaient énormément de temps à trouver le premier emploi, des études qui disaient que ça pouvait durer très longtemps. Donc je me suis dit, j'ai un moment là, est-ce qu'on pourrait pas le rentabiliser en faisant un enfant, hein? Voilà, ça me paraît un peu ahurissant maintenant de parler de ça comme ça, mais vraiment c'était vraiment mon positionnement à l'époque, pour coller aussi au truc de ma mère qui du coup les premiers temps étaient avec moi. Je me suis dit, de toute façon je vais avoir le temps, je suis à la maison, donc voilà, autant que ça colle. Et de plus, dans ma famille et dans mon entourage proche, voilà, il y a eu deux couples qui ont eu des enfants, et ça m'a donné un peu aussi envie, quoi, vraiment par imitation. Je me suis dit, oh là là, j'arrive à cette période de ma vie là, donc vraiment un peu totalement dans le cadre sociétal de voilà, on arrive à un moment donné, il faut avoir un bébé. Maintenant que j'y pense, ça m'embête un petit peu, hein, de pas de le reconnaître bien sûr, mais de pas avoir su voir les mécanismes du fait que j'appliquais un cadre sociétal qui nous est un peu demandé sans réfléchir. J'ai eu mon enfant, ça a été le plus beau la plus belle réussite jusqu'à ce jour, parce que peut-être qu'il va y en avoir d'autres, des belles réussites. Je regrette pas du tout, mais ça m'embête un peu de pas avoir su, ou pu, de pas avoir pu réfléchir plus largement à la question.
Par rapport au moment, en fait.
Oui, par rapport au moment, au mauvais moment. Oui, voilà, du fait de son beau moment, moi je pensais vraiment que c'était un bon moment, et puis finalement, non. Et puis comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Par contre, je me rappelle m'être dit, oh, est-ce qu'il y a un bon moment ou il n'y a pas un bon moment, c'est peut-être le moment, c'est le moment, parce que de toute façon il n'y aura pas d'autres moments.
C'est vrai que moi, par rapport au moment, au bon moment, au mauvais moment, je me questionne beaucoup par rapport à ça, parce qu'effectivement, comme je l'ai expliqué, j'ai eu envie de faire un enfant parce que j'ai rencontré mon partenaire actuel. J'avais jamais eu vraiment l'envie avant, finalement, cette envie qu'on dit viscérale, absolument. Alors ça, c'est quelque chose que personnellement je questionne un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup de pression qui nous fait penser qu'il faut, et que des fois, quelquefois, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais en tout cas, je me suis dit, cette personne-là, ça match, et c'est vraiment une personne que je verrais bien en tant que père. Et ça s'est passé très très vite. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans où on était ensemble, je suis tombée enceinte. Donc c'était vraiment, en fait, au début de notre relation, et parce que j'avais vraiment confiance en notre relation. Et ce truc de bon moment, mauvais moment, moi je sais que dans mon cas personnel, et je m'en rends compte maintenant, il y a eu l'âge qui a compté. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire, voilà, l'horloge biologique. J'ai commencé à me dire, ok, j'ai 32 ans. Si on fait pas d'enfants maintenant, ça va être pas trop tard, parce qu'il y a des gens qui font encore des enfants à 40 ans. Mais moi, c'était pas du tout quelque chose que je voulais. C'est-à-dire faire des enfants très 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 tard, pour plein de raisons. Et donc je me suis dit, là, en fait, je suis sûre de moi avec lui. Donc c'est le moment ou jamais. Si on veut faire des enfants, si on est tous les deux d'accord, c'est le moment ou jamais. Et quand on y pense, quand j'y pense un petit peu plus en profondeur, je me suis dit que ça a été vraiment, finalement, la raison pour laquelle on a fait un enfant à ce moment-là. Alors qu'en fait, c'était pas le bon moment dans ma vie. C'était pas vraiment le bon moment dans ma vie. Parce que on était tous les deux en Chine quand je suis tombée enceinte. On avait bien sûr le projet de rentrer au Luxembourg après cette année en Chine. J'avais signé un contrat pour 3 ans. J'y suis restée qu'un an pour d'autres raisons. Quand je suis arrivée ici au Luxembourg, en fait, je venais de trouver un emploi. C'est-à-dire que je venais de trouver un emploi pour remplacer une autre prof qui était en congé maternité. Et je suis arrivée enceinte de 3 mois au Luxembourg. Et j'ai dû annoncer au travail, ok, en fait, le contrat, je vais pas pouvoir le finir. Je vais pas pouvoir le finir parce que moi-même, je suis enceinte, en fait. J'ai pu faire que 4 mois. Et ça m'a enlevé, en fait, toutes les possibilités de congé maternité, tout simplement. Congé maternité, congé parental, en fait, j'ai rien eu droit au Luxembourg parce que j'étais pas là depuis assez longtemps. J'ai pas travaillé assez longtemps. Il faut 6 mois minimum. Et j'ai travaillé que 4 mois. Donc, en fait, si on avait attendu 2 mois de plus, j'aurais pu finir mon contrat et j'aurais pu avoir un congé maternité et j'aurais pu, je me rends compte maintenant que c'est vraiment le besoin de faire un enfant maintenant, parce que j'avais peur de pas pouvoir en faire un plus tard. C'était vraiment ça, je me disais, ça tourne là. Et j'ai pas envie d'attendre, et tant pis, ce que tu disais, Pauline, moi aussi, j'ai toujours été une raisonnable. Toujours, je fais les trucs bien, ça reste carré, faut que tout me roule, etc. Et en fait, être enfant, ça a été le seul truc pas raisonnable que j'ai fait dans ma vie. Et oui, effectivement, c'était pas le bon moment, mais en même temps, finalement, je regrette absolument pas, parce que, dans mon cas en tout cas, tout s'est bien déroulé, c'est-à-dire que j'ai quand même continué à travailler dans cette école, ils m'ont donné un contrat. Mais par contre, j'ai dû reprendre le travail assez vite. Je pense que j'aurais pu attendre encore un petit peu, parce que j'étais contente de reprendre le travail, on avait déjà parlé dans un autre épisode, mais ça a été quand même un petit déchirement de recommencer à travailler aux 7 mois de Charlotte. J'aurais bien aimé avoir un congé parental, surtout qu'au Luxembourg, il est intéressant, c'est pas comme en France. Et en fait, ça va un petit peu mener à ma question du deuxième enfant. Léa, je voudrais commencer par toi. Déjà, est-ce que tu souhaite avoir un deuxième enfant? Je sais que cette question est très brutale et directe et qu'elle n'est pas aussi simple que ça, mais j'aimerais bien voilà, que tu nous expliques ce que tu penses de cette question et ton cheminement un petit peu par rapport à ça.
Je parlais de ma mère qui avait façonné ma vision de la parentalité. C'est vraiment vrai, parce que je voulais 3 enfants. Nous, on est 3 dans ma fratrie. Moi, je voulais 3 enfants. Je voulais refaire ça. 3 enfants rapprochés. Et ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Quand j'ai eu Charlie, alors, les premiers mois, c'était très difficile. Hein, mais ça allait. Mais en fait, c'est surtout à partir de 4-5 mois, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je peux pas. Par rapport à la façon dont je voulais élever mon enfant, je ne me voyais pas avoir un deuxième enfant tout de suite. En plus, avec l'allaitement long, je n'avais pas mon retour de couche. Donc voilà, c'était pas une option pour moi de sevrer pour pouvoir avoir un enfant. Je comprends qu'on puisse le faire, mais c'était pas ce dont j'avais envie moi. Donc au fur et à mesure, je me suis dit, les enfants rapprochés, c'est pas pour moi. Mais avec quand même, peut-être pas 3, mais au moins l'idée d'avoir un deuxième. J'en ai parlé quand même avec mon conjoint, et lui, il m'a dit, moi je me sens pas prêt, en tout cas pas dans les années à venir du tout. Tout simplement parce que je sais que j'aurais dû faire plus avec Charlie, je me rends compte. On a eu cette conversation peut-être quand il avait 1 an, je sais pas, mais voilà, il m'a dit, j'aurais dû faire plus avec Charlie, j'aurais dû plus m'impliquer pour un deuxième. Maintenant que j'ai eu cette épiphanie, il se voyait pas s'impliquer moins que ce qu'il aurait aimé s'impliquer. Et du coup, il m'a dit, je veux pas de suite replonger là-dedans, parce que voilà, j'ai envie de dormir, j'ai envie de faire des choses pour nous. Du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, bon bah, on en aura un, mais plus tard. Aujourd'hui, donc on est 2 ans et demi après la naissance de notre enfant, j'ai presque abandonné l'idée d'avoir un deuxième. Par rapport à l'implication, parce que j'ai d'abord envie déjà de me trouver, moi, en tant que personne. Donc là, je vais reprendre des études en septembre. J'en ai pour au moins 2 ans. Après, le temps de se lancer dans le travail, etc. Voilà, j'ai envie de me construire mon identité propre. Or, l'identité autant qu'épouse et que mère. Et par rapport au deuxième enfant, j'ai envie de me focaliser sur mon premier. Franchement, ça me dérange pas forcément d'avoir que un enfant. J'aimerais bien, c'est vrai que j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien vivre en communauté pour quand même qu'il ait ce rapport quotidien avec d'autres enfants. Donc je sais pas si un jour ça pourra se faire ou pas, mais c'est vrai qu'il y a juste ce petit truc là qui de grandir au quotidien avec d'autres enfants qui m'embêtent qu'ils n'expérimentent pas. Mais c'est plus un embêtement. Ce n'est pas un besoin. C'est surtout, en fait, la condition dans le monde, la condition climatique, qui me fait dire que je ne veux pas de deuxième enfant. Je ne suis pas sûre que si j'avais les connaissances actuelles que j'ai sur tout ce qu'on sait maintenant, et sur, parce que je fais beaucoup de recherches là-dessus, sur comment va devenir le monde, que je ferai un premier enfant. C'est quelque chose qui me terrifie. Je ne sais absolument pas de quoi va être fait l'avenir de mon enfant. Donc je n'ai pas envie de créer un autre être humain et de le placer dans une condition aussi incertaine que ce que je place mon premier. Ça ne veut pas dire que je n'aurai jamais de deuxième enfant, dans le sens où je suis assez ouverte à l'adoption ou alors à élever d'autres enfants que mes enfants biologiques, mais je n'ai pas envie de faire un deuxième enfant biologique. Donc je suis même en train de me poser la question de si... J'ai demandé ce matin à mon mari, mais il a besoin de réfléchir, bien sûr. On a parlé de contraception définitive, donc que ce soit la sienne ou la mienne. Et par contre, c'est vraiment pas un avis que j'ai envie d'imposer à tout le monde, dans le sens où non, 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 faites pas d'enfants, c'est horrible le monde dans lequel vous allez le laisser, puisque si c'est moi qui venais à faire une ligature des trompes, je pense qu'avant de le faire, je voudrais donner mes ovocytes. Alors ça paraît un peu contradictoire peut-être, mais voilà, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. C'est vraiment pour dire que mon besoin personnel de ne pas refaire d'enfants, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie d'établir comme loi pour tout le monde, quoi. Vraiment.
Oui, merci pour ce disclaimer. J'aurais fait le même. Alors toi, Pauline, c'est un petit peu différent parce que tu as un deuxième enfant. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce qui t'a poussé ou convaincu de faire un deuxième enfant relativement rapproché. Il peut y avoir plus rapproché que ça. Explique-nous tout.
Nous, on voulait des enfants très rapprochés. Sauf que Meïssa est née par césarienne. Et le lendemain de sa naissance, une sage-femme est venue et m'a dit « Non, mais de toute façon, vous pourrez pas avoir d'enfants rapprochés, en fait. Vous, il faudra attendre au moins 2 ans avant de retomber enceinte, parce que sinon, il y a trop de risques de rupture utérine sur un utérus cicatriciel, ce qui est faux pour ceux qui nous écoutent. » Mais voilà, c'était ce qu'on nous avait dit. Il y a des médecins qui m'avaient dit 3 ans. Franchement, ça nous a brisé le cœur. J'en ai pleuré, on était complètement dépités de cette annonce. Mais de toute façon, j'allaitais encore Meïssa qui a 4 ans, et mon retour de couche n'est arrivé qu'à 2 ans et demi, aux 2 ans et demi de Meïssa. Donc de toute façon, les enfants rapprochés, c'était fini. Hein. Il n'y avait pas de retour de couche, donc il n'y avait pas de grossesse possible. J'ai arrêté la contraception quand Meïssa a eu 1 an, puisque là, j'avais vu une autre sage-femme qui m'avait dit « C'est bon, là, vous pouvez lancer une grossesse sans aucun risque. Vous pouvez arrêter la pilule, il n'y a pas de souci. Si vous tombez enceinte, ça se passera très bien. » Donc quand Meïssa a eu 1 an, après le contrôle, on a arrêté la contraception. Mais j'avais pas de retour de couche. Donc de ces 1 an jusqu'à ces 2 ans et demi, mon mari, tous les jour, m'a demandé d'arrêter d'allaiter Meïssa pour qu'on puisse avoir un deuxième enfant. Je n'ai jamais cédé parce que, non, en fait, je voulais pas priver Meïssa de l'allaitement. Me priver d'allaiter Meïssa aussi parce que pour moi, c'était un lien que je voulais pas casser à ce moment-là. On a continué comme ça, il a pris son mal en patience, avec toujours des petites réflexions. Dès qu'il y avait un pote qui avait un nouveau bébé ou n'importe, il avait vraiment envie d'avoir un deuxième bébé. J'ai eu mon retour de couche en mars, pendant le premier confinement, et je suis tombée enceinte en mai. Ça s'est bien passé, y a pas de souci. Et j'avoue, Selma est tellement, entre guillemets, facile. Elle a toujours été un bébé facile, comme on aime bien dire, qui mange bien, qui dort bien, qui pleure pas trop, qui est autonome. Par rapport à Meïssa, qui était clairement... un bébé avec des besoins, on va dire, intenses. C'est des vacances, Selma à côté, même si bon, là maintenant elle marche, donc il faut courir après toute la journée. Mais je pense aux 3 semaines de Selma, j'avais déjà envie d'avoir un troisième enfant. Je me souviens même du soir où on était tous les deux allongés avec mon mari, que tout le monde dormait à la maison. On s'est regardé et on s'est dit, on aimerait bien en avoir un autre en même temps. Parce que voilà, parce que Selma est facile et parce que c'est trop d'amour, quoi. T'as envie de recommencer encore et encore. C'est un bonheur de découvrir une nouvelle personne que tu as conçue avec la personne que t'aimes. C'est un truc absolument incroyable, quoi. Alors même si, effectivement, maintenant Meïssa a 4 ans, donc avec le recul, tu te dis, ouais, c'est pas tant facile que ça. Alors je sais, pour plein de gens, c'est super dur les premiers mois. Personnellement, pour moi, c'est plus dur maintenant, à 4 ans, que quand elle était bébé et qu'elle était tout le temps collée à moi et tout ça. Mais d'un point de vue émotionnel, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué pour moi aujourd'hui de gérer les crises, les frustrations, l'opposition. C'est plus dur pour moi que de gérer un bébé qui a besoin d'être porté tout le temps, allaité tout le temps et ce genre de choses. Ça s'est pas passé comme on aurait voulu, mais finalement, peut-être tant mieux. Parce que si j'avais pas dû attendre autant de temps, j'aurais pas rencontré Selma. Ça aurait été un autre enfant. Aujourd'hui, je vois plus ma vie sans Selma. C'est très compliqué de me souvenir de ce que c'était que de n'avoir que Meïssa. C'est fantastique, je le sais, parce que j'ai pris des notes sur ce qui se passait et tout ça. C'était vraiment fantastique, mais c'est tellement incroyable d'avoir 2 enfants... que je me dis, mais avec 3, ça doit être encore plus dingue. J'ai plein de copines qui sont en train de réfléchir au deuxième ou qui sont enceintes du deuxième, qui me disent, ah là là, je flippe trop, qu'est-ce que ça va être, ça va être ingérable, déjà j'ai du mal avec 1. Alors qu'en fait non, finalement il y a tellement de choses qui sont tellement plus simples avec 2. Genre là aujourd'hui, ça va paraître très con, mais je peux aller aux toilettes toute seule. Parce que déjà Selma est plus autonome, et puis que quand Meïssa est là, Meïssa et Selma, elles sont ensemble, elles sont plus seules. Ça c'est vraiment un truc... Alors oui, il y a des fois où ça se chicane un peu, et puis voilà, mais elles ont une relation de fou, quoi. Meïssa adore sa sœur, Selma est complètement folle de Meïssa. Dès qu'elle est pas là, elle l'appelle, elle la cherche partout. Et je me dis, avec un troisième, ça serait encore plus dingue, quoi. Les interactions, observer les interactions entre les enfants, tout cet amour, quoi. Celui que tu donnes, mais celui que tu reçois aussi. Selma commence à dire « je t'aime ».
Oh.
Ça. Les trucs comme ça, évidemment que t'as envie d'en avoir encore. Après... là, bon, de toute façon, j'ai toujours pas mon retour de couche, donc le troisième enfant, la question se pose pas. Mais je pense honnêtement que si j'avais eu mon retour de couche, on aurait déjà lancé les essais pour le troisième, oui. Mais c'est vraiment un point de vue logistique, parce que là, ça veut dire changer de voiture, réorganiser la maison autrement, parce que deux, c'est gérable. Deux sièges auto à l'arrière, ça passe. Trois sièges auto, ça passe plus. Donc il faut changer de voiture, il faut envisager d'autres moyens logistiques pour les déplacements. Mais finalement, ça se fait. Ça se fait, t'as pas le temps d'être débordé finalement. Tu peux pas te le permettre. Donc du coup, bah tu gères. Et ça fait moins peur, je trouve, d'en avoir un troisième que d'en avoir un deuxième. Parce que t'es déjà passé par le... Ça a été très difficile avec Maïssa à la naissance de Selma. On a dû aller consulter une psychologue et tout parce qu'elle était vraiment en souffrance. Alors que son arrivée avait été bien préparée. Je veux dire, moi, avant de tomber enceinte, avant de lancer les essais, j'en avais parlé avec Maïssa. On en avait parlé, mon mari aussi. On lui avait expliqué ce que ça impliquait d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Au niveau de la relation avec papa et maman, papy, mamie, tout le monde, qu'elle serait plus seule, que donc toute l'attention ne serait pas sur elle et tout ça, on avait bien préparé. Et elle nous avait dit, oui, moi je veux un petit frère ou une petite sœur, je suis d'accord, j'ai envie d'avoir un bébé à la maison. Mais voilà, elle avait 2 ans et demi, ça a été très compliqué. Mais là, aujourd'hui, même en me souvenant parfaitement des difficultés qu'on a eues, je me dis, ok, je sais ce que ça fait, je vois... Même si je peux pas savoir comment Selma va réagir, par exemple, à l'arrivée d'un troisième enfant, comment Maïssa va réagir à l'arrivée d'un troisième enfant. Mais je me dis, ok, on a réussi ça, on l'a passé, on peut le refaire. Donc oui, aujourd'hui, j'ai clairement envie d'un troisième enfant.
D'accord, c'est très intéressant d'avoir ton point de vue, Pauline. Et en fait, ça me fait penser à une autre question pour vous deux, finalement. Je vais peut-être donner la parole à Léa sur ce point-là. Léa, tu as dit qu'à l'origine, tu voulais avoir 3 enfants rapprochés. Pourquoi rapprochés ? Moi, c'est une question vraiment qui m'interpelle, parce que moi, ce serait mon cauchemar, vraiment, d'avoir des... Enfin, cauchemar, je vais un peu fort. Mais vraiment, je voudrais pas d'enfants rapprochés. Et donc, ça m'intéresse de savoir ce qui te poussait, Léa, à vouloir des enfants rapprochés.
Ah, clairement, parce que c'est mon modèle familial. J'ai 2 ans d'écart avec ma sœur, j'ai 3 ans d'écart avec mon frère. Donc clairement, je pense qu'on peut voir à travers l'épisode que tout mon rapport à la parentalité, c'est exactement collé sur la parentalité que ma mère a eue. Donc du coup, c'est vraiment pour ça, parce que je me rappelle ce que ça fait d'être avec ma sœur et mon frère, et j'adorais. Alors on se chamaillait tout le temps. Mais voilà, c'était vraiment top. Et puis là, avec ma sœur, voilà, on a quasiment le même âge. On a même des copines en commun. Bon, c'est un peu compliqué. Je veux dire, on s'entend très bien avec les copines de l'une et de l'autre, même si on se voit pas. Mais voilà, quand on se voit, on pourrait dire qu'on appartient au même cercle, parce que voilà, on avance en même temps. Je me rappelle, par exemple, quand on cherchait du travail, elle était aussi en recherche de travail. Donc voilà, en fait, même avec 2 ans d'écart, on a à peu près vécu les mêmes choses. Et donc du coup, c'est vrai que je vois par exemple la relation que mon mari a avec sa sœur, donc ils ont 6 ans d'écart. En fait, enfant, il n'avait pas beaucoup de relations avec elle, et je trouve que ça se voit dans leur rapport adulte. Après, je pense que c'est pas du tout systématique, parce que je pense qu'on peut très bien être très rapprochés, qu'on s'entende bien enfant, et que finalement adulte, ça soit pas le cas, ou inversement. Mais c'est vrai que dans mon entourage proche, c'est ce qui se passe, et du coup, c'est vrai que j'avais envie de... C'est vrai, on est tous rapprochés, même quand je réfléchis avec mes cousines, on est tous... Genre, ma cousine a 2 ans de plus que moi, mes 2 autres ont 2 ans, ont 1 an de moins que moi, donc c'est vrai qu'on était tout le temps en train de jouer, on avait les mêmes envies de jouer, c'est vraiment pour ça, pour que mon enfant puisse connaître ce que moi, en fait, j'ai connu et que j'ai aimé. Parce que, bon, il y avait aussi ce truc de, les enfants contre les parents aussi. Donc, voilà, de protection aussi, parfois, hein, par rapport à ce qu'on a pu vivre.
Donc... Ok, donc c'est vraiment ton contexte familial à toi qui a influencé ton envie. C'est marrant parce que, moi aussi, j'ai grandi avec 2 frères. Alors moi, c'est peut-être parce que j'ai pas de sœur, je sais pas. Mais j'ai grandi avec 2 frères, je suis l'enfant du milieu, je suis pas l'aînée, j'ai un grand frère et un petit frère. On n'a pas tellement d'années d'écart, c'est-à-dire que mon grand frère, un petit peu plus, on a 3 ans et demi d'écart, mais avec mon petit frère, on a 2 ans. Donc on est quand même proches, et ça m'a beaucoup interpellée ce que tu as dit par rapport au fait qu'on puisse à peu près être proche quand on est enfant et plus tellement quand on est adulte, parce que je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé pour moi. J'ai pas l'impression... J'espère qu'ils écouteront jamais ce podcast. J'ai pas l'impression que que ça me sert ou ça m'a servi tant de ça que d'avoir des frères, en fait. Peut-être parce que j'étais la seule fille, c'est possible aussi. Mon statut était différent du leur, du fait que j'étais une fille. J'étais traitée différemment. Et même si je m'entendais très bien avec mon petit frère, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses quand on était petits, on a beaucoup joué ensemble, etc. Jusqu'à un certain âge, je dirais jusqu'à l'adolescence. À l'heure d'aujourd'hui, je me dis que j'ai pas tellement de relations que ça avec mes frères. Alors, avec ma famille de manière générale, parce que, bon, on est un peu... on habite loin, voilà, comme vous le savez, j'ai habité dans différents pays, donc les relations familiales sont un peu... pas éclatées, mais je vois pas souvent ma famille de toute façon. J'habite dans un autre pays. Mais j'ai pas cette envie, je me dis pas « Ah, c'est absolument indispensable » d'avoir une fratrie pour bien s'épanouir. Parce que j'ai vraiment l'impression, peut-être que je me trompe, parce que je sais pas ce que c'est que d'être un enfant unique, j'ai pas l'impression que ça a aidé dans mon épanouissement, que ce soit enfant ou adulte. J'ai pas l'impression qu'on est soudés, j'ai pas l'impression que face à l'adversité, avec mes parents, on était soudés quand, je sais pas, il y avait des disputes ou on se prenait des claques ou j'en sais rien. Et donc j'ai pas du tout ce modèle familial qui m'influence dans mon choix d'avoir ou pas un deuxième enfant, parce que je trouve pas ça important moi dans ma vie. Encore une fois, je sais pas ce que c'est que d'être enfant unique, mais j'ai l'impression que peut-être si j'avais été enfant unique, je me serais peut-être même plus épanouie que en ayant été enfant d'une fratrie, une fratrie rapprochée surtout avec mon petit frère. Je sais par les discours de mes parents et par quelques souvenirs que j'ai très 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 mal vécu l'arrivée de mon petit frère. Je pense que j'étais très petite puisqu'on a 2 ans d'écart. Donc ma mère est tombée enceinte très vite et j'ai des récits comme quoi quand mon petit frère est arrivé, j'essayais littéralement de le tuer. Je lui ai donné des coups de chaussure dans la tête, ça on me la ressent très souvent. Je le poussais du canapé pour qu'il se fasse mal. J'ai très très mal accueilli en fait mon petit frère. Alors par la suite, mon petit frère, quand on était vraiment petit, c'est devenu un petit peu quand même mon double, on va dire, quelques années après qu'on était encore petit. Après ça a encore changé. Notre relation bien sûr a évolué et a été positive par la suite, mais je sais que l'arrivée de mon petit frère, ça a été quelque chose de dramatique dans ma vie. Et j'ai des souvenirs de jalousie intense envers lui, parce que j'avais l'impression que ma mère m'abandonnait. Ma mère m'a allaitée. Vous parliez d'allaitement par rapport au deuxième enfant. Plus tard, je me suis rendu compte que mon sevrage, parce que ma mère a eu un allaitement relativement long hein, pour l'époque, m'a allaité 15 mois. Et en fait, je pense que cet allaitement s'est terminé parce que il y a mon frère qui est arrivé. Et elle m'a expliqué, après j'ai pas de souvenirs de ça, elle m'a expliqué que c'était quelque chose de très dur pour moi, ce sevrage, et que tout, en fait, tout a été vraiment bouleversé dans mon petit monde où j'étais la petite, où j'étais un petit peu celle qui était choyée, car quand même beaucoup plus petite que mon grand frère, forcément. Et vraiment, ces souvenirs de jalousie, ils sont encore, mais au niveau émotionnel, hyper présents chez moi, alors que j'ai plus du tout de jalousie envers mon petit frère, vraiment, évidemment que là, à l'âge adulte, c'est plus du tout pareil. Mais j'ai des images de ma mère en train de s'occuper de mon petit frère et moi d'être à côté et complètement pas délaissée, parce que je dirais pas que ma mère m'a délaissée, mais d'être vraiment intensément jalouse. Et j'en étais même arrivée à un point où, ça c'est mes parents qui m'ont raconté, je m'en rappelle pas du tout, où en fait je m'évanouissais. J'ai eu une période de plusieurs mois où je m'évanouissais. Pour un oui, pour un non, je tombais dans les pommes. À tel point que mes parents sont beaucoup inquiétés, on m'a fait faire des radios du cerveau, tout ça, pour voir si j'avais pas un problème. Et en fait, mes parents, alors je sais pas si c'était la véritable explication, mais peut-être, en ont conclu que c'était pour attirer l'attention. Parce que je me sentais délaissée, en fait. Et qu'en fait, quand je m'évanouissais, et ben en fait, on accourait vers moi pour s'occuper de moi. Et à partir du moment où ils l'ont plus fait, c'est-à-dire... tu t'évanouis, on te laisse par terre, quoi. Apparemment, je l'ai plus fait. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on m'a raconté. Je me souviens pas du tout de cette période parce que j'étais vraiment très, très, très petite. Mais ça m'étonnerait pas que c'était été pour ça, en fait, que c'était pour attirer l'attention. Léa.
Alors, déjà, par rapport à la jalousie qu'on peut ressentir quand il y a un deuxième ou un troisième qui est arrivé. Bon, je me rappelle pas de l'arrivée de ma sœur parce que, comme toi, j'avais 2 ans. J'en ai parlé avec ma mère. Alors, elle me dit qu'à la maison, j'étais vraiment très. J'ai pas eu de période trop de de crise ou des choses comme ça. Cependant, par contre, je pense que j'évacuais à l'école, parce que à l'école, je tapais les autres enfants, etc. Je demandais beaucoup plus d'attention à l'école. Voilà, j'avais pas en fait ce comportement de violence sur ma sœur. Par contre, j'essayais d'attirer l'attention de mes parents ou des autres adultes dans un autre contexte. C'est vrai que je suis persuadée que avoir un deuxième enfant aussi rapproché, peut-être en fait même pas rapproché d'ailleurs, c'est un traumatisme pour le premier enfant, parce que finalement il perd tous ses repères. Donc je pense que ça mérite, peut-être même systématiquement, un accompagnement spécifique et voire professionnel des premiers enfants. Le truc avec l'attention, moi adulte, je suis persuadée, et c'est un travail que je fais avec ma psy, que je fais encore des crises d'angoisse pour avoir l'attention des gens. Donc est-ce que ça me vient de là ou pas, c'est possible, hein, peut-être pas que, mais c'est possible. Mais je sais que j'ai perdu énormément d'attention quand ma sœur, et encore plus quand mon frère sont arrivés, parce que j'avais 5 ans et qu'il y avait quasiment plus de place pour moi. À l'adolescence, ça s'est un petit peu repositionné, parce qu'il y avait moins de besoins urgents, donc j'imagine que mes parents, ils arrivaient plus à jongler entre nous. Mais c'est vrai, je pense avoir mal vécu les arrivées, même s'il y avait, comme je dis, beaucoup d'amour quand même envers, et je me rappelle que j'aidais ma mère avec ma sœur, avec mon frère, mais voilà, il y avait quand même beaucoup de problématiques d'attention envers moi que j'ai évacuées. Je pense à partir de mon frère, là j'ai commencé aussi à faire des crises à la maison, mais donc du coup, premièrement à l'extérieur sur les autres enfants, parce que je n'avais pas envie, ou peut-être pas le droit, parce que je me faisais aussi peut-être très fortement gronder par mes parents, donc sur ma sœur, mais sur les autres enfants. Puis avec mon frère, je pense que là je faisais plus des crises, mais pas forcément sur mon frère, bah à la maison quoi, pour un oui, pour un non, et puis l'angoisse, etc. Et je voulais aussi revenir sur le problème de genre que tu disais par rapport à tes frères, parce que je pense vraiment que ça a un impact, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai parlé plutôt de ma relation avec ma sœur. Alors oui, elle était plus rapprochée en âge, mais aussi parce qu'on a eu la même sociabilisation, que ça soit par rapport à mes parents qui ont une éducation, on va dire, semi-genrée, parce que bon, je pense qu'il n'y avait pas de sexisme dans le sens où ils mettaient mon frère dans une position de dominant par rapport à nous, mais par contre, genrée, oui, parce qu'on nous demandait pas les mêmes choses, ma sœur et moi et mon frère, et aussi par rapport à la société qui... voilà, qui genre complètement différemment. Il y a une attitude qui est complètement différente envers les filles et envers les garçons. Donc forcément, ma sœur et moi, on vivait beaucoup plus de choses particulières. Tu parlais avec ton frère qu'à l'adolescence, vous avez commencé à vous séparer. Bah, là, bon, là, il n'y a pas que la sociabilisation, puisqu'il y a des problèmes aussi biologiques, hein, là, qui y a des différences, des problèmes, non, c'est pas le bon mot, mais il y a des différences biologiques qui font qu'on s'ouvre à... Finalement, c'est un changement pour les deux, mais c'est des changements qui sont différents. Du coup, ces différences s'intensifient. Finalement, j'étais proche beaucoup plus de ma sœur, parce qu'on avait les mêmes choses qui se passaient dans nos vies aussi, alors que mon frère, moi...
Toi, Paul, je suis l'aînée d'une fratrie de deux, donc déjà, c'est différent, donc j'ai juste un petit frère. Moi, maintenant, je fais cette lecture avec... ma vision de mère de deux et d'adulte. Mon frère est né très prématurément pour l'époque. Il est né à 7 mois et demi, donc c'était il y a 30 ans. Forcément, c'était pas les mêmes conditions que maintenant, donc ça a été très compliqué. Il a eu pas mal de problèmes de santé étant petit, donc toute l'attention était forcément dirigée sur lui. Son arrivée, je pense, a été extrêmement traumatique pour moi, parce que j'ai des souvenirs antérieurs, mais je n'ai aucun souvenir de ma mère enceinte, et je ne me souviens absolument pas de la rencontre avec mon frère. Alors que j'ai des souvenirs depuis l'âge de 2 ans à peu près, et mon frère et moi, on a 4 ans de différence. Et moi, 4 ans de différence, je trouve que c'est trop. On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt au même moment. Dès que je faisais quelque chose, c'était « Ah oui, mais lui, il est tellement petit !» Truc que tu peux pas entendre quand t'as 4 ans. Donc c'est des trucs comme ça, voilà. Et aujourd'hui, en le voyant avec mes yeux de mère, je me dis que finalement, mes parents ont eu tellement peur, mais tellement peur à la naissance de mon frère, que forcément c'est un traumatisme qui est resté pour eux pendant de longues années, et il sera toujours le « il est trop petit, il est tellement petit ». Il sera toujours ça, et il l'est encore aujourd'hui à 30 ans. Et moi, j'ai pas honte de le dire, aujourd'hui à 34 ans, je suis toujours jalouse de mon frère, parce que la différence de traitement est marquée, même si... j'en veux pas à mes parents, j'en veux pas à mon frère, mais la différence elle est là parce qu'il est tellement petit, et aussi parce que ben, mon frère est une copie conforme de mes parents et de leur mode de vie. Mon père était comptable, mon frère est expert comptable, ma mère est infirmière, il est marié avec une infirmière. Je veux dire, on est vraiment sur un calque, voilà. Il a fait les mêmes sports que mon père faisait, exactement les mêmes. Vraiment les mêmes centres d'intérêt que mes parents, quoi. La même vie, la même vision de la vie, voilà, les mêmes buts et tout. Donc forcément, ils sont plus proches, quoi. Déjà, géographiquement, ils sont plus proches, même si on n'est pas très loin. Moi, j'habite à 20 minutes de mes parents, lui, il habite à 5 minutes. Il est resté beaucoup plus longtemps à la maison que moi. Voilà, il est plus proche, c'est différent. Même si, voilà, j'ai des bonnes relations avec mes parents, il n'y a pas de souci, c'est pas la question. Et ça n'a, pour moi, ça n'a aucun rapport avec le fait que ce soit un garçon. Parce que mes parents, même si forcément c'était genré, parce que voilà, ils sont pas déconstruits à ce niveau-là et ils le seront très probablement jamais. Et c'est ok, je veux dire, je vais pas refaire leur vie, mais mon frère avait les mêmes obligations que moi à la maison, de ménage ou ce que vous voulez. Pour les sorties, j'étais aussi libre que mon frère, il y avait pas... Là où je pense qu'il y a eu une différence de traitement, c'est vraiment dans le fait que moi j'étais la première et que donc j'ai essuyé les plâtres. Et que lui, bah, c'était le deuxième, donc ils avaient déjà une vision de la parentalité qu'ils ont forcément modelée à ce moment-là, parce que quand on a deux, c'est pas pareil que quand on a un, t'as beau faire tout ce que tu veux, t'as pas le même temps, t'as pas la même énergie, t'es plus vieux, enfin voilà, c'est différent, mais je pense pas moi que ça a un rapport avec le genre. Je ne pense pas que ça a un rapport entre le fait que ce soit un garçon et que moi je sois une fille. Je pense vraiment que c'est une différence de caractère et de tempérament entre lui et moi, et puis voilà, cette peur qu'ils ont eue finalement. Il y a aussi le truc... Moi, quand mes parents, ils ont voulu avoir un enfant pour moi, ma mère est tombée enceinte tout de suite. Mon frère, par contre, ça a pris des années. Donc je pense aussi que ce truc-là, cette attente et puis cette peur à son arrivée et ensuite avec ses problèmes de santé, ont fait qu'il y a eu une différence de traitement que j'ai très très mal vécu quand j'étais enfant. Mais qu'aujourd'hui, je comprends et en quelque sorte, je pardonne. Et moi, c'était parce qu'on avait 4 ans de différence avec mon frère et que je trouvais que c'était trop que je voulais avoir des enfants rapprochés. Parce que même aujourd'hui... Je m'entends bien avec mon frère, hein, mais je suis pas proche de mon frère. Ça serait un mensonge que de dire que je suis proche de mon frère. On se voit chez mes parents ou mes grands-parents, ou quand il y a un truc, ils nous invitent. Mais sinon, j'ai jamais de nouvelles de mon frère, quoi. Et c'est ok, je sais qu'il va bien, parce que mes parents m'en donnent. Mais on s'appelle pas, on se voit très peu seul, quoi. Ça n'arrive quasiment jamais. D'ailleurs, un jour, il devait avoir 16 ou 17 ans, je crois. Je me souviens, à l'époque, j'avais une Golf 3. Non, mais c'est très précis. Et on devait aller au cinéma, je crois que c'est la seule fois d'ailleurs où on allait au cinéma que tous les deux. Et il m'a dit, tu sais Pauline, toi et moi, on n'est pas proches, c'est parce qu'on n'a rien à voir. Et il a raison, mais ça n'empêche pas que je l'aime de tout mon cœur et que je ferai tout pour mon frère. Mais on n'est pas proches. On n'est pas proches. Et je voulais pas ça pour mes enfants. Et là, quand il s'est marié au mois de septembre, sa femme, elle a un petit frère, mais ils sont... Vraiment, eux, par contre, ils sont vraiment très très proches. Et c'est lui qui a fait l'animation du mariage, qui a, vous savez, les diaporamas avec les petites histoires et les machins. Et quand je l'ai regardé, son frère et ma belle-sœur, je me disais, waouh, j'aurais tellement voulu avoir cette relation-là avec mon frère. Et d'ailleurs, je l'ai dit à ma belle-sœur, j'ai été vraiment touchée de la relation que tu as avec ton frère. Et j'espère vraiment que mes filles, elles auront la même. Vraiment.
Donc finalement, c'est un petit peu comme Léa et moi, même si j'ai pas encore répondu à la question du deuxième enfant. Finalement, l'impact du modèle familial a de grandes conséquences sur ce que tu veux toi dans ta vie. Parce que soit tu veux reproduire, soit tu veux absolument pas reproduire. Et finalement, dans mon cas, c'est... Alors, pas absolument pas reproduire. Hein. C'est pas du tout... Je dis pas que je n'ai jamais voulu... avoir de deuxième enfant, parce que c'est la réponse que je donne aujourd'hui, c'est que je ne veux pas de deuxième enfant, mais ça n'est pas venu aussi simplement. Moi, à l'origine, j'aurais aimé avoir un deuxième enfant, mais un deuxième enfant éloigné du premier, pour des raisons complètement indépendantes d'une relation entre mes enfants. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout pensé à « je veux qu'ils soient proches, je veux pas qu'ils soient proches, je veux qu'ils aient des choses en commun, je veux pas qu'ils... » C'était pas ça, moi j'ai pensé à moi, l'impact que ça aurait sur moi d'avoir deux enfants rapprochés. Et j'ai trouvé ça tellement dur. Et je trouve ça toujours tellement dur. Mais tu parlais, quelquefois, c'est plus difficile pour certaines personnes au début qu'après. Je trouve ça, même si je fais face aux mêmes difficultés que toi, avec Charlotte qui se rebelle, qui a son petit caractère maintenant, qui a beaucoup, voilà. Des fois, ça part en insultes et tout, carrément. Mais en fait, je trouve ça quand même moins difficile que ce que j'ai vécu avec elle quand elle était vraiment bébé. Le fait de ne plus me reconnaître en tant que personne, d'avoir une fusion tellement intense avec mon enfant, de n'être jamais vraiment séparée d'elle, bah, sauf quand je suis allée travailler au bout de ces 7 mois, mais c'était à tel point que, par exemple, si j'avais un cours avant manger et un cours après manger, bon, à l'époque, j'habitais à 10 minutes à pied de mon école, eh bien, je courais à la maison pour rentrer, rester 5 minutes, l'allaiter et repartir. Et en fait, j'ai vécu, je pense, trop de difficultés. Je veux pas dire trop de fusion, parce que c'était pas trop de fusion, c'était un besoin pour elle, comme pour moi, mais ça m'a épuisée. Franchement, ça m'a épuisée. Les nuits, ça m'a épuisée. C'est mon pire cauchemar de revivre les nuits que j'ai eues avec Charlotte. Toute cette attention qu'elle demandait, ça m'a épuisée. Notre relation, en fait, m'a épuisée, m'épuise encore hein, aujourd'hui. Même si c'est plus facile, maintenant elle va à l'école et c'est quand même pas mal décollé de moi. Mais cette fusion avec moi, beaucoup moins avec son père, même si son père a toujours été présent, même si son père s'en est toujours occupé. Enfin, le fait est que c'était quand même moi qui m'en occupais, qui m'en occupe, même encore aujourd'hui le plus. Et donc j'ai pas envie. Il y a des personnes qui veulent revivre ça, qui trouvent ça magique, le postpartum, cette relation, cette découverte de l'enfant, etc. Moi, je suis très contente de l'avoir vécu. Vraiment, je trouve que ça a été une expérience qui m'a changée, qui a complètement façonné la personne que je suis aujourd'hui. Mais je veux pas le revivre parce que c'est trop intense pour moi, parce que c'est trop dur, parce que ça m'a donné trop d'abnégation. Qu'encore aujourd'hui, je suis en train d'essayer de recoller un petit peu ma vie pour essayer de retrouver qui je suis, retrouver une vie pour moi en fait, parce que je l'ai complètement perdue. Alors je sais que c'est pas que à cause d'elle, c'est aussi le fait d'être devenue mère dans un pays étranger, sans entourage. Je sais que ça a beaucoup joué. Mais voilà, ça, revivre ça si intensément, c'est quelque chose que finalement, à un moment donné, j'ai dit, je peux le revivre si mon enfant à côté, l'autre enfant, ne me demande plus autant en fait de soins, d'attention, etc. Si elle devient indépendante, là peut-être que je pourrais le revivre quand j'avais encore l'idée de peut-être avoir un deuxième enfant. Et puis finalement, j'ai eu une conversation là-dessus avec mon conjoint, parce qu'on n'en avait jamais parlé. Hein. C'est assez récent, je pense que c'était l'année dernière, où il m'a dit, franchement, c'est une discussion qu'on doit avoir à deux. Mais moi, je vais te dire ce que moi, je pense tout seul de cette question-là. C'est que moi, j'ai pas du tout envie d'avoir un deuxième enfant. J'ai pas du tout envie. Et d'ailleurs, je me demande même pourquoi il y a des gens qui font un deuxième enfant. Alors non pas qu'ils regrettent, c'est pas ça, mais en fait, ils comprennent même pas pourquoi les gens vont automatiquement se dire, parce que c'est vrai que dans beaucoup de familles, c'est bon, on fait un deuxième parce que voilà, faut faire un deuxième. Il n'y a pas toujours une réflexion derrière. Il dit, moi, je vois pas, je sais qu'à l'heure actuelle, d'avoir notre enfant, ça me suffit. Je suis très heureux comme ça. Et donc, j'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant à l'heure actuelle. Ça m'a sonné sur le... Je vais pas vous mentir, ça m'a sonné parce que moi, j'avais quand même dans l'idée, finalement... Mais je pense que j'étais influencée par, en fait, il faut faire un deuxième parce qu'elle peut pas être toute seule. Elle va pas avoir de frère, de sœur, elle va manquer de quelque chose. Parce que, voilà, toutes les familles qui nous entourent ont au moins un deuxième enfant. Alors je dis ça, mais c'est pas vrai parce que mon petit frère a seulement un enfant et je pense qu'il veut pas d'autres enfants non plus. Mais en tout cas, notre entourage ici au Luxembourg, c'est que des familles avec plusieurs enfants. Et donc, pour moi, c'était un petit peu la suite naturelle. Par contre, trois non. Je m'étais dit, on était trois enfants. J'ai toujours pensé, par contre, quand j'étais enfant, puis ado, etc., qu'on était trop en étant trois. Donc deux. Mais en fait, après cette discussion, je me suis vraiment posé les questions sur, mais en fait, pourquoi un deuxième? Pourquoi je voudrais un deuxième? Et puis je me suis dit, en fait, je crois que c'est juste des pressions sociétales. Parce que l'envie viscérale d'avoir un deuxième enfant, en fait, elle n'est pas là. Et quand j'imagine un deuxième enfant, j'imagine les galères. Je me dis, en fait, le seul truc qui pourrait un peu me sauver, ce serait que le deuxième enfant soit, par exemple, comme Selma. Donc un enfant facile, qui ne demande rien, que je puisse poser, parce que Charlotte, j'ai jamais pu la poser, qui n'ait pas de problème à être gardée, à être laissée. Parce que à l'heure actuelle, moi, si je faisais une deuxième Charlotte, ou un deuxième Charlotte, quoi, si c'était un garçon, je pourrais pas le vivre bien, je sais, je serais trop difficile pour moi, et j'ai pas envie de prendre le risque, en fait, de revivre ça, et que ça ait un impact sur ma santé mentale, comme ça a pu avoir un impact... Alors, j'ai pas fait de dépression du postpartum, je pense pas, mais j'ai vraiment, vraiment galéré, j'ai vraiment souffert de mon postpartum. Et donc, après, je me suis aussi posé les autres questions que toi, tu t'es posé, Léa, à savoir, tout ce qui est question environnementale, bon, beaucoup moins poussée que toi Léa, parce que j'ai pas autant de connaissances que toi, mais il y a l'avenir de la planète qui me fait peur, surtout avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on a vécu là, avec les pandémies, les guerres, tout ça. Je trouve que ça se rapproche un petit peu trop de notre réalité, tous les problèmes mondiaux. Encore une fois, même disclaimer que Léa, je dis pas que c'est quelque chose d'universel que tout le monde doit penser, c'est comme moi je réfléchis moi. Je me dis que je serais irresponsable, moi, d'emmener un autre humain sur cette terre, parce que moi, la planète, ça me fait... là, elle me fait peur. Ce qui se passe en ce moment, ça me fait peur. L'avenir me fait peur. En fait, j'en suis même venue à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait avec Charlotte? Pourquoi j'ai emmené Charlotte dans un monde pareil? Et vraiment, ça m'angoisse. J'y pense de plus plus en plus souvent. Et je me dis, surtout qu'en plus Charlotte est à fond dans les questions de la mort en ce moment. Elle me dit tout le temps, je veux pas mourir, etc. Je me suis même dit, mais en fait, je lui ai donné la vie, mais je lui ai donné la mort aussi. Bon, pour vous dire, hein, jusqu'où ça va au niveau des angoisses. Et je regrette absolument pas d'avoir eu Charlotte, vraiment pas. Mais quelquefois, je me dis, en fait, j'ai pas envie d'emmener un autre humain sur cette terre parce que je me questionne déjà sur si j'ai pas fait une connerie d'emmener un humain déjà sur cette terre. Je veux pas être responsable, en fait, d'un futur incertain pour d'autres enfants. Donc voilà, par contre, la question de est-ce que Charlotte sera toujours seule, je me pose de plus en plus de questions comme toi Léa, c'est-à-dire au niveau de l'adoption, parce que là, bah, les enfants, ils sont déjà là. Au niveau d'adoption, c'est vrai que c'est pas une question que j'ai énormément creusée, j'en ai même pas parlé à mon conjoint, mais c'est pas une porte que je fermerai, parce que il y a déjà les problématiques de postpartum que j'aurais pas, parce que si j'en venais à adopter un enfant, ce serait un enfant qui serait déjà relativement grand. Pauline.
La question de l'adoption chez nous, elle est récurrente parce que mon mari veut vraiment adopter des enfants. D'ailleurs, là pour le troisième, lui, il serait plus chaud pour adopter un enfant que pour en faire un biologiquement. Moi, non. Bon, déjà, moi, j'ai encore envie d'être enceinte, d'avoir encore un bébé. Et moi, l'adoption, ça me fait très très peur parce que ça fait très longtemps qu'on en discute, bah, quasiment depuis qu'on est mariés en fait. Très longtemps qu'on en discute et qu'on l'envisage. Moi, j'ai peur de ne pas aimer un enfant adopté comme j'aime mes propres enfants. Et j'ai très peur de faire vivre ça, en fait, à un enfant qui déjà est dans une situation compliquée où il n'a plus ses parents, soit qu'ils sont décédés, soit qu'ils l'ont abandonné. Donc tu me dis qu'il n'a pas en plus besoin de se sentir moins aimé que les autres au sein d'une fratrie. Alors mon mari me dit toujours, mais tu te poses trop de questions, bien sûr que tu vas l'aimer comme les tiens et tout. Ouais, mais je suis pas sûre. Et j'ai pas, vraiment pas envie de faire subir ça à un enfant. Et encore moins à un enfant qui déjà a pas été aidé par la vie, quoi. Et ça me fait très très peur, mais lui, il a vraiment ce désir-là d'adopter un enfant. Donc on finira peut-être par le faire. Je pense que je consulterai des professionnels spécialisés, voire les réponses qu'ils peuvent m'apporter sur le sujet. Mais ça me fait très très peur. L'adoption, j'en ai envie, bien sûr que j'en ai envie, mais ça me fait très peur. J'ai peur de faire une différence entre mon enfant biologique et mon enfant adopté. Et vraiment, je veux pas faire subir ça à un enfant.
Ouais, je comprends tes questionnements par rapport à ça. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai connu une famille avec un enfant adopté. Donc, ils sont allés le chercher en Inde quand il avait 8 ans. J'ai quand même passé pas mal d'années à l'intérieur de cette famille. En fait, c'était un ex-copain et j'étais assez proche de sa famille. Et en fait, c'est moi, personnellement, c'est ça qui m'a donné envie. Parce que j'ai vu à quel point cet enfant était considéré en fait exactement comme leur enfant biologique. Il y avait, en tout cas quand j'étais là, il n'y avait vraiment aucune différence de fait. Leur fille biologique considère vraiment cet enfant adopté qui a quasiment son âge, ils ont un an de différence, bah, comme son frère, comme son double, ils font tout ensemble. Et j'ai trouvé vraiment ça merveilleux. Maintenant, je comprends totalement les problématiques qui peuvent se poser. Est-ce que voilà, je serais capable de l'aimer autant? Est-ce que je serais capable, ou même, est-ce que je ne ferais pas des traitements de faveur par rapport à cet enfant parce que je sais qui vient d'un milieu, peut-être qu'il a vécu des traumatismes, etc. Et je sais que ça peut faire peur. La question du deuxième enfant, c'est sûr que c'est une question qui peut être un véritable casse-tête, ou alors une question qui peut être un petit peu plus simple. J'espère qu'à travers nos discours et nos expériences, somme toute assez différentes sur la question, vous pourrez peut-être avoir des bribes de réponses si ce sont des questions que vous vous posez vous-même. Vous venez d'écouter un épisode de L'écho des mères. Retrouvez-nous tous les premiers vendredis du mois sur vos plateformes habituelles, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, et sur notre compte Instagram L'écho des mères. À bientôt !